Donc l'heure de l'entretien de Philippe Legrand.
Les tours du monde en jet privé TMR vous présente l'entretien de Philippe Legrand.
Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
On part dans une direction, celle d'une histoire, votre histoire que vous voulez partager avec nous, mais à travers un événement incroyable. Retour en juin 1989, Tiananmen.
Tiananmen, c'est un événement qui a marqué tout le monde, bien sûr. Ça rappelait un peu pour moi mai 68. Ça se passait en Chine, bien sûr, avec une révolution étudiante. Et au même moment, j'étais en train de monter, enfin elle était déjà montée, on allait partir bientôt, la traversée de l'Antarctique, Transantarctica. Et nous y allons traverser l'Antarctique en équipe internationale pour promouvoir la reconduction du traité de l'Antarctique. Et il se trouve que dans cette équipe, une équipe internationale, il y a donc un Anglais, un Américain, un Japonais, un Russe qui est soviétique, un Chinois de Chine populaire et moi. Et donc, la question se pose, nous avions une ambition de paix, on va dire, de paix, c'est-à-dire la reconduction du traité de l'Antarctique, qui est un traité formidable, qui dit que ce continent de glace, qui est au pôle sud, doit rester une terre de science, une terre de paix. Et nous faisons une conférence de presse, c'était aux États-Unis, à Washington, au Press Club, de mémoire, ça devait être le 15 juin, par là. Et donc, la question se pose, ce Chinois, qu'est-ce qu'il fait avec vous? Qu'est-ce qu'il fait sur une expédition, vous êtes là pour promouvoir...
Vous aviez anticipé la question.
On était gênés, on en avait discuté entre nous. J'avais demandé aux Chinois, je savais qu'on était embarrassés avec cette question-là. Et donc j'avais dit aux Chinois, écoute, on va se mettre d'accord sur quelque chose, s'ils l'ont interrogé là-dessus, c'est qu'on y va pour promouvoir, encore une fois, la reconduction du traité de l'Antarctique, magnifique traité, le seul traité qui a été ratifié par tous les pays du monde, dont les États-Unis. Et je lui ai dit, ça serait bien qu'on fasse une charte comme quoi on s'allie tous derrière cette idée-là. Et donc il fait une pause, il me dit, si on me demande de signer quelque chose, je ne peux pas le faire tout seul. Il faut que je m'en réfère aux autorités, et les autorités ne vont pas accepter. Il me dit, et je ne viendrai pas. Et donc se pose la question à la conférence de presse, donc j'ai expliqué ceci. Et je dis, c'est quand même important que la Chine soit représentée sur la reconduction du traité de l'Antarctique, parce que les Chinois sont très présents en Antarctique.
Donc vous anticipez la question?
Oui, j'avais anticipé la question. Bien sûr, attends, c'est un événement, le 5 juin, cet homme qui se dresse devant le char, ça fait le tour du monde. Et donc c'est dans nos têtes. Et Qin Dao, c'est son nom, est embarrassé avec ça. Et en même temps, il a cette culture chinoise, c'est-à-dire qu'on est un peu de fer, on mélange pas les choses, quoi. Hein. Après, il m'a raconté, effectivement, c'était un homme du parti, on va dire, pour qu'il ait été sélectionné parce qu'il n'était pas là.
Donc, il ne parlait qu'un seul langage.
Il parlait qu'un seul langage. Il parlait l'anglais, bien sûr, mais qu'un seul langage, c'était le sien. Et donc, c'était un homme du parti. Pour avoir été sélectionné pour aller à une équipe internationale comme ça, c'était une opportunité formidable. Et il m'a expliqué sa jeunesse, donc il avait été dans les fermes, il avait fait les travaux, il avait tout fait pour être dans la production du parti, donc il était hors de question qu'il trahisse le parti.
Et il a vu une raison d'être avec vous, de partir dans cette expédition, à cet instant même où l'histoire se joue dans son pays.
C'était en amont. Il n'est pas arrivé la veille du départ. Quoi. C'était en amont que les choses se faisaient, et quand on m'a présenté Qin Dao, les événements de Tiananmen n'étaient pas encore arrivés, vous voyez. Donc il faisait partie de l'équipe et c'est agrandi donc avec l'événement qui a commencé à nous interroger là-dessus. Et puis donc il avait été choisi en fait parce que il avait une expérience polaire, c'est-à-dire qu'il avait été le directeur de la station chinoise en Antarctique. Donc il était très connecté avec le sujet. Et puis on est parti en juillet avec tous ensemble. Donc il est venu avec nous.
Jean-Louis Etienne, qu'est-ce qui reste de ce mois de juin 1989 et ce qui a suivi ensuite avec ces événements et ce souffle de liberté, comme vous le dites?
Vous voyez, je me suis rendu compte que la différence de nationalité n'est pas un obstacle quand on a un projet commun fort. La langue non plus n'est pas un obstacle. C'est évident que si aujourd'hui l'anglais est la langue qu'il faut parler, les jeunes qui nous écoutent, là, il faut absolument qu'ils apprennent l'anglais. Mais c'était pas un obstacle. À partir du moment où on a un projet fort, je le vois, j'interviens souvent dans des communautés de industrielles ou autres qui se disent on veut promouvoir l'international et ça reste dans nos têtes comme une barrière. Et ce projet international m'a montré qu'effectivement, c'est les individus qui ont le même objectif, qui s'unissent, qui mettent leurs forces et la langue elle s'adapte à ça. Donc c'est resté pour moi un grand projet, parce que c'était une ouverture sur le monde pour moi. C'est moi qui suis allé chercher le chinois, c'est moi qui suis allé chercher le russe qui était soviétique. C'est resté des amis communs. Et voyez, à la fin de l'année, nous allons nous réunir au Japon pour fêter les 30 ans de Transantarctica.
C'est ce qui reste. Je pensais que vous alliez me dire, vous qui êtes aussi l'auteur de « Oser l'autonomie », votre dernier ouvrage, je pensais que vous alliez me dire, on ne pensait pas trop à l'autonomie dans ces années-là, et notamment dans ce mois de juin 1989. Et pourtant, quelques années après, finalement, vous nous racontez que c'est nécessaire.
Voyez, l'autonomie, c'est ce qu'on est capable de s'octroyer comme liberté. Parce que la liberté, elle ne se gagne pas sur les autres, elle se gagne sur soi. Et être autonome, pour moi, c'est ouvrir des espaces de liberté dans n'importe quel domaine. Être autonome par rapport à l'information qui nous arrive tous les jours. On a des avalanches d'informations. Comment conserver son libre arbitre? Il y a, dans un tout autre domaine, par exemple, notre corps. Notre corps a une large part d'autonomie, celle qui fait qu'on respire, que le cœur bat. Et donc, dans nos pays occidentaux, c'est complètement à l'abandon. On est émotionnellement très fragile. Et alors que ce système nerveux autonome, on peut en avoir la maîtrise. Les yogis, par exemple, ce sont des exemples. Aujourd'hui, on parle d'autonomie énergétique. Voilà. Et donc, oser l'autonomie, c'est un encouragement à se prendre en main, tout simplement.
Tiananmen, c'était au fond l'événement que vous nous avez raconté à ce moment-là, ouais. Puisque vous-même, vous aviez fait ce choix de réunir, entre autres, autour de vous, tous ces pays, et notamment le Chinois qui était avec vous. Est-ce que vous l'avez revu, Jean-Louis Etienne, ce Chinois qui avait embarqué avec vous pour cette aventure-là?
Alors, Qin Dao, le Chinois, donc je l'ai revu plusieurs fois. Nous avons fait une conférence commune sur le changement climatique à Minneapolis, aux États-Unis. Et donc, moi, on était tous les six, et je lui pose la question. L'ennemi du climat, ça reste le charbon. La Chine se développe au charbon. Qin Dao, est-ce qu'il y a une perspective dans ton pays d'arriver à sortir du charbon? Et donc, il avait cette attitude-là qu'ils ont toujours, les Chinois, de toujours se considérer comme un pays en développement pour lequel on est tolérant. Et bon, ça a évolué, je l'ai revu il y a 5 ans, et on se revoit au Japon dans quelques mois, ça va être en novembre pour les 30 ans de Transantarctica. On va reparler du climat, et bien sûr son pays reste toujours un pays charbonneux, un pays qui est actif sur le réchauffement climatique. Mais c'est intéressant parce qu'il a évolué, il a une liberté de parole, il est sorti de l'appareil, il a une liberté de parole... Il y a un truc qui était drôle, c'était à propos de photos, c'est que Qin Dao s'était laissé pousser les cheveux pendant 7 mois. Il est arrivé, il était raide.
Lui le révolutionnaire, finalement, de la bande?
Oui, oui. Et à la fin, on fait une photo, et les filles à qui il montrait, waouh, il a une gueule. C'était Qin Dao, il avait vraiment une gueule. Et quand on est revenu, parce qu'après nous avons été reçus en Chine, mais on a été reçus, mais alors comme les Rolling Stones, et pire. C'était une opportunité formidable pour le gouvernement chinois de montrer qu'ils avaient participé à un grand projet international. Il y avait 3000 enfants qui nous attendaient à l'aéroport à Pékin avec des casquettes jaunes et des petits drapeaux. Moi, j'ai fait c'est moi qui étais le porte-parole, j'ai fait la conférence devant le président, le maire de Pékin. On a eu tous les honneurs.
Pas d'évocation de Tiananmen?
À aucun moment. On était là pour montrer effectivement que de nouveau la Chine s'était ouverte sur le monde.
Merci Jean-Louis Etienne.
Merci.
C'était l'entretien de Philippe Legrand avec TMR, les tours du monde en jet privé.